Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, de plus en plus de Français placés en quarantaine.
Au moins une trentaine de cas suspects sont en cours d'examen. Illustration de cette inquiétude, le SAMU de Lorraine a été pris d'assaut hier. Plus de 100 coups de fil de personnes rentrant d'Italie ou ayant été en contact avec quelqu'un. À Bordeaux, hier soir, des médecins ont organisé une réunion d'information sur le coronavirus pour faire le tri entre fantasmes et réalité, reportage de Jean-Marc Terrier.
2 heures d'échange et des questions concrètes.
On a 2 élèves qui doivent arriver samedi.
Ils viennent de quelle région ?
Ils viennent de la Lombardie.
Face au public composé d'une centaine de personnes, le responsable de l'agence régionale de santé, le directeur du centre hospitalier de Bordeaux et le professeur Denis Malvy, qui a traité à Bordeaux le premier cas français de coronavirus.
Les autorités italiennes vont se déterminer si la réponse est oui. Eh bien, vous allez les accueillir et veiller à ce qu'ils ne subissent pas un ostracisme insérer et contre-productif.
Problème de contamination, de confinement, voyage à l'étranger et mise en quarantaine. Ce Bordelais doit se rendre à Singapour la semaine prochaine.
Si au retour, il y a une quarantaine, je ne vois pas pourquoi on laisse partir. J'ai reçu une confirmation d'Air France, voyage confirmé.
Dans l'assistance, il y a également des professionnels de santé. Ce médecin généraliste est aussi agent régulateur au centre 15.
Le civisme, c'est de ne pas se précipiter chez les pharmaciens pour aller chercher des masques. Les masques, il faut les laisser pour les personnes qui en auront besoin. Il faut que les uns les autres, on se transmette ce message de ne pas paniquer. Le civisme aussi, c'est par exemple, au centre 15 ce matin, il y avait 40 minutes et 53 secondes d'attente à un moment donné. Ça veut dire que le civisme, c'est un, accepter d'attendre, mais aussi accepter que les réponses soient courtes.
Depuis une semaine, le CHU de Bordeaux réalise 20 tests coronavirus par jour. Il faut 6 heures pour avoir un résultat. Il n'y a pas de nouveau cas détecté à Bordeaux pour l'instant.
6 heures pour obtenir un résultat, nous dit Jean-Marc Terrier. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
On disait, il y a au moins une trentaine de cas suspects ce matin partout en France. On sera fixé très vite.
Donc. Oui, cela ne devrait pas tarder en effet. Réponse dans les heures qui viennent, par exemple pour ce groupe de 8 lycéens de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, de retour d'un voyage en Italie. Des jeunes qui hier en cours ne se sont pas sentis bien et qui ont été mis très rapidement à l'isolement. Attends également pour ses élèves et ses professeurs de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. En Lorraine, 11 personnes transférées à l'hôpital, là aussi de retour d'Italie. 2 autres cas suspects en Corse, des personnes forcément inquiètes avec soit de la fièvre, soit de la toux. Il faut savoir que depuis le début de la crise, eh bien, de très nombreux tests sont réalisés tous les jours en France et qu'ils s'avèrent bien sûr négatifs. Il n'empêche que l'inquiétude est là, la psychose sans doute, le besoin d'informer, d'être informé. La preuve avec ces 5000 appels reçus lundi par la plateforme téléphonique mise en place par le ministère de la Santé, alors que la semaine dernière, on stagnait encore à quelques centaines d'appels.
Alors Odile, il y a les cas, il y a les suspicions et les cas avérés. Il y en a 2 à l'heure où l'on parle. Un homme hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes et une jeune femme de retour de Chine. Elle est en observation à Paris. Il n'inspire pas d'inquiétude, mais le cas de la jeune chinoise est intéressant, qu'elle a contracté le virus sans tomber malade. Comment c'est possible?
Alors oui, selon la Direction Générale de la Santé, cette jeune femme qui va très bien était porteuse de traces de guérison. Il semble qu'elle n'ait pas développé de symptômes tout en étant porteuse du virus. Ce qui n'empêche pas la contamination, c'est ce qui rend ce coronavirus plus invisible, un peu plus inquiétant. C'est aussi toute la différence par exemple avec le SRAS. On savait que qu'une personne n'était contagieuse que lorsqu'elle présentait des symptômes. Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas la majorité des contaminations avec le coronavirus toutefois.
Merci beaucoup pour ces explications très claires, Odile Pouget.
Et sans surprise, comme partout, on se rue sur les masques en pharmacie.
Et pour faire face à la demande exceptionnelle, cette entreprise du Maine-et-Loire vient d'embaucher 35 salariés supplémentaires. Reportage de Patrice Gabart.
Toutes les chaînes de fabrication de l'usine Colmy Open de Saint-Barthélemy d'Anjou, près d'Angers, 6 pour les masques chirurgicaux, 4 pour les masques respiratoires FFP2, tournent à plein régime depuis le 3 février. L'entreprise a même dû embaucher pour soutenir la cadence Gérald Heulier, le directeur général et fondateur du groupe en 2002.
Là, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le début de la crise qui a commencé le 21 janvier, on a lancé les recrutements de 26 personnes liées à la production la semaine suivante. Et le temps de monter en charge, tout masque confondu, nous faisons plus d'un million de masques par jour.
Des masques à base de fibres de polypropylène non tissées.
Par chance, 100% des matières premières qui sont liées aux masques viennent d'Europe et 70% de France. Néanmoins, on sait déjà que certaines journées, en fin de semaine prochaine, on va être obligé d'arrêter quelques machines pendant 2, 3, 4 jours.
Chaque lot est contrôlé avant expédition, un laboratoire sous haute tension également. Fabienne Laurando, assistante qualité.
Le rythme est très très soutenu. Aussitôt le masque finit de conditionner, on essaie de récupérer au plus vite les pièces pour contrôler. On couvre une plage horaire d'environ 8h-18h tous les jours pour absorber la charge.
C'est une palette de masques de protection qui ne prend pas le temps d'aller en stock, mais qui va tout de suite être expédiée chez un de nos clients, puisque tout ce qu'on fabrique est expédié le jour même.
Tout cela pour répondre à la rupture des livraisons de masques en provenance d'Asie, soit plus de 80% de la production mondiale.
Un sujet de Patrice Gabart. Et alors que l'économie mondiale tourne au ralenti, on apprend ce matin que le gouvernement de Hong Kong va verser un peu plus de 1000 euros à chacun de ses habitants permanents. Il y en a 7 millions pour relancer notamment le commerce. Le virus progresse toujours en Italie, mais les supporters de la Juve sont bien autorisés à venir aujourd'hui en France, à Lyon, pour assister au 8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Est-ce bien raisonnable de maintenir leur présence? On posera la question au maire de Mézieux, Christophe Quignoux, à 8h20.
L'économie en bref et ce nouveau record de rentabilité pour PSA. Son PDG Carlos Tavares annonce ce matin sur RTL une prime d'intéressement de 4100 euros pour tous les salariés qui touchent jusqu'à deux fois le SMIC. C'est 300 euros de plus que l'an dernier.
RTL Matin, 8h06.
Dans le reste de l'actualité, ce matin, le retour de Pierre Botton devant la justice.
C'est un nom qui fleure bon les scandales politico-financiers des années 90. L'ancien homme d'affaires avait passé plus de 600 jours en prison pour abus de biens sociaux. Avant de revenir sur le devant de la scène pour une opération rédemption, écoutez, c'était en 2010 sur le plateau de Thierry Ardisson.
J'ai cru que l'argent donnait beaucoup de choses et aujourd'hui, c'est obligatoirement, j'ai un certain dégoût vis-à-vis de cela.
Je ne cherche pas à être bon, je cherche surtout à être moi-même.
Il est dans la rédemption, exactement, l'ancien Pierre Botton n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le nouveau Pierre Botton.
Sauf que le nouveau Pierre Botton a, semble-t-il, déjà replongé, Cindy Hubert.
Oui, Pierre Botton aurait détourné plus de la moitié des subventions reçues par son association de soutien aux prisonniers. Plusieurs centaines de milliers d'euros utilisés pour satisfaire des besoins uniquement personnels, note le parquet de Paris. Voyage, hôtel de luxe, travaux dans une villa à Cannes. L'homme jurait pourtant que la prison l'avait métamorphosé. 602 jours derrière les barreaux pour abus de biens sociaux. Quand on en sort, dit-il, on est pestiféré. Il faut tout faire pour ne pas y retourner. Pierre Botton décide donc de s'engager contre la récidive. Sa fougue est légendaire. Il réussit à convaincre Michel Drucker, Yannick Noah, Hugo Lloris de soutenir ses prisons du cœur, sa nouvelle association. AXA, Vinci, Schneider acceptent de jouer les mécènes. Pierre Botton devient très vite un interlocuteur du ministère de la Justice jusqu'à ce que la brigade financière ne se plonge dans ses comptes. Une enquête uniquement à charge, regrette le prévenu, qui assure qu'il produira toutes les preuves de son innocence au procès aujourd'hui.
Les explications de Cindy Hubert. Après le vrai faux départ de son procès lundi reporté pour cause de grève des avocats, le couple Fillon est de retour au tribunal. Ce mercredi, la défense doit soulever deux questions prioritaires de constitutionnalité, notamment sur la prescription des délits.
Dans un court instant, après la mort de l'ancien dirigeant égyptien Hosni Moubarak, que reste-t-il du printemps arabe? On y répond dans un instant.
RTL Matin, 8h08.
RTL Matin.
8h09, Jérôme Florin, Yves Calvi.
On l'appelait le dernier pharaon d'Égypte, Hosni Moubarak, est mort hier à l'âge de 91 ans.
Et contrairement à ses prédécesseurs, c'est dans un hôpital et non pas au pouvoir qu'il a rendu son dernier souffle. Moubarak avait été chassé du pouvoir par son peuple en 2011, l'année du fameux printemps arabe, un mouvement de contestation qui avait touché le Maghreb et le Moyen-Orient.
9 ans après, la démocratie a-t-elle triomphé ou progressé dans la région? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
En 2011, la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, le Bahreïn, la Libye, la Syrie entrée en révolution. Est-ce une réussite aujourd'hui?
Malheureusement non. Seule la Tunisie tire à peu près son épingle du jeu avec aujourd'hui un régime démocratique en place, une nouvelle constitution installée en 2014, mais les mouvements sociaux se multiplient et la Tunisie doit affronter de nombreuses attaques terroristes. Ces révolutions arabes ont en fait eu raison de plusieurs dictateurs, de la Tunisie à l'Égypte en passant par la Libye, mais à part la Tunisie, elles n'ont pas mis fin aux dictatures. Alors regardez le régime militaire en Égypte et les guerres dévastatrices continuent, même au-delà de ces pays, en Syrie, en Libye, au Sahel, en Irak ou au Yémen. Deux régimes se sont maintenus, la Syrie et le Bahreïn, mais en livrant leur pays à des mains étrangères et le terrorisme qui a essaimé partout.
Et là où le printemps arabe a particulièrement échoué, c'est en Syrie, hein, Bénédicte.
Ah bah oui, c'est une catastrophe même dans la province d'Idleb, d'où ont fui 900 000 personnes depuis décembre dernier. Le régime de Bachar al-Assad tente d'éliminer en ce moment les djihadistes. La Turquie veut entrer dans le pays, combattre l'armée. Un sommet sur la Syrie devrait avoir lieu la semaine prochaine, mais il est compromis.
On a fait tomber les dictateurs, pas les dictatures, vient de nous dire Bénédicte Tassard. C'était la question du 8h.
En France, l'abattoir de Vaud en Dordogne, épinglé la semaine dernière par une vidéo de l'association L214, va faire l'objet d'une enquête approfondie. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Agriculture, qui attend un rapport complet pour vendredi matin.
Et ben on part justement au salon de l'agriculture.
L'occasion de découvrir les richesses de nos terroirs, comme on dit. Et il n'y a pas que les vaches et les cochons, il y a aussi les alcools à consommer, bien sûr, avec modération. Dans la catégorie whisky, figurez-vous que 8 médailles d'or viennent d'être décernées à des producteurs français et qui étaient dans le jury. Un connaisseur, notre reporter Julien Fautra, RTL, en immersion avec vous, Julien, dans les coulisses des jurys du Salon de l'Agriculture.
Oui, j'arrive sans trop savoir ce qui m'attend à l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Thierry Fabian, qui anime la formation, dépose 3 verres remplis de whisky sur nos tables et bien entendu un crachoir à côté.
On rapproche son nez.
D'abord, savoir sentir un whisky.
On va inspirer très progressivement pour sentir. Donc là, on a excité en fait le produit.
Mais ensuite, alors, parvenir à en dégager les arômes.
Je propose maintenant de passer à la dégustation en bouche. Vraiment, l'idée, c'est d'absorber le moins possible d'eau de vie. L'objectif, c'est de prendre une micro-goutte et de la vaporiser.
Voilà, des choses qui auraient un peu d'épices. Moi, je dirais toujours dans le premier.
Le côté caractéristique.
Comment goûter? Comment aussi ne pas avoir l'air idiot à côté des professionnels qui jugeront aux mêmes tables lors du concours? Cécile Ergotte est elle aussi formatrice.
C'est vrai qu'il faut s'entraîner. Il y a une bibliothèque, j'allais dire, gustative et olfactive, mais tout le monde est capable de déguster.
Jour J au Salon de l'Agriculture.
Alors, je vais vous mettre en whisky.
10 h du matin, je déambule entre les tables avec Éric Boursin, commissaire du concours.
Est-ce qu'il n'est pas un peu doux? Il manque pas un peu de caractère?
Il manque un peu de patate, ouais.
Nous sommes 4 à notre table, mi-professionnel, mi-amateur. Catégorie Whisky de France, single malt. Devant nous, 8 mystérieux flacons simplement numérotés.
Le 5 que moi j'ai aimé, vous n'avez pas aimé. Il reste le 7 et lui.
Je propose tout de suite une médaille d'or, moi, sur celui-là. C'est sur l'avant-dernier, le 7.
On est tous d'accord pour le 7.
Moi, sur le 7, je suis sur une médaille d'or.
Non, le consommateur qui tombera là-dessus, il se fera plaisir. Il ne sera pas déçu.
69 bouteilles en compétition, signe de l'engouement et que la filière s'organise, se structure. Il était temps, puisqu'on le sait assez peu, la France est le premier consommateur de whisky par habitant.
À la vôtre, avec modération, une nouvelle fois RTL en immersion, signé Julien Fautra. On l'évoquait en début de ce journal, le match OL-Juventus de Turin aura bien lieu ce soir, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Ce sera à vivre sur RTL de 20h45 à 23h. Toujours en Ligue des Champions, hier soir, le Bayern Munich a pris une longueur d'avance en battant Chelsea 3-0. Match nul, un partout entre le FC Barcelone et Naples.
C'était le journal de Jérôme Florin à 8h.